Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Radio Foot International. Il était un très grand joueur et surtout un immense monsieur. Un lion ne meurt jamais, il dort. Une sieste, sa sieste à lui, dure depuis plus de 20 ans, bien trop longtemps. Alors chaque année, on pense à lui, à RFI, parce qu'on a donné son nom à un prix. C'était il y a 15 ans et aujourd'hui, on va lancer la 16e édition de ce prix RFI France 24. C'est ainsi qu'on l'appelle, Marc Vivien Foé, c'est le plus important. Qui pour succéder au Congolais de l'OM, Chancel Mbemba, peut-être lui-même, nous verrons dans une poignée de secondes s'il figure dans le 11 finaliste de cette édition 2024. C'est 11 hommes qui peuvent prétendre au titre, on le rappelle, de meilleur joueur africain du championnat de France de Ligue 1. Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Olivier Pron, bonjour à tous.
Vous savez, vous avez contribué grandement à ce choix, vous serez donc évidemment soumis à la question une fois cette liste égrenée. Et Patrick Juillard, comme Ludovic Duchesne, ont bien l'intention de vous en poser des questions, oui. Bonjour messieurs.
Bonjour Patrick. Olivier, bonjour à toutes et
Salut
à tous.
Salut Olivier, bonjour à toutes et à tous.
Ça va saigner. Une fois passé le temps des récompenses, direction l'Angleterre. Oui, chers auditeurs, il ne servait à rien de vous émouvoir hier, de réclamer, voire de protester. La Première Ligue, quand c'est pas le lundi, bah c'est le mardi. Vous saurez, on vous l'a déjà dit, nom d'un petit bonhomme. Parfois c'est avec Salim Bongali, d'autres avec Constant, Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Olivier.
Bienvenue.
Merci.
Le plus grand Twitter compulsif du plus suivi des championnats du monde. Que nous soyons, honnêtement déçus par le match de dimanche, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Si Bruno, ne levez pas les yeux au ciel comme un enfant. Ce choc City-Arsenal nous a ennuyés profondément, déçus follement.
Il y en a un qui va se faire gronder là.
Tout ça pour ça, le seul qui a adoré forcément... C'est Jürgen Klopp. Lui, il a vu son équipe gagner et coiffer les deux autres pour prendre la tête. Ce trio-là, sans doute, n'a pas fini de nous régaler à condition de marquer. C'est en Italie que nous finirons, les amis. Là-bas, le titre est joué et promis à l'Inter. L'Europe aussi est jouée ou presque. Et en Ligue des Champions, il y aura sans doute un invité surprise. Bologne, devant la Roma, l'Atalanta, le Napoli. C'est le gros coup de cette saison italienne, ça mérite son petit focus. Allez, on a une liste à donner. Guérin et Finzel ont bien bossé, De Gueldre est prêt à réaliser. Et vous, à écouter, pas le temps de niaiser.
Victime, semble-t-il, d'une rupture d'anévrisme, ce drame a bouleversé ses équipiers, mais aussi les joueurs de l'équipe de France. De nombreux bleus avaient côtoyé Marc Vivien Foé en club.
C'est un trophée qui est quand même très important pour tous les joueurs africains qui évoluent en France.
Ça fait vraiment plaisir d'être le meilleur africain en France.
Rendre hommage à cet homme qui s'est éteint là où il brillait, sur un terrain.
Here is the list, a qui est la lista, a qui ecco la lista. Bamos a donné la liste, voici donc la liste. On commence ces 11 nommés pour ce prix Marc Vivien Foé 2024. À vous l'honneur, Christophe.
Eh bien, il y a d'abord dans cette liste, par ordre alphabétique, Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille.
mes cadets, mes petits frères, ça commence bien.
Toujours par ordre alphabétique, Nabil Bentaleb, l'Algérien de Lille.
Mais j'ai dit, il faut tout, il faut des héros, il faut des bistrots.
Prétendant au prix Marc Vivien Foé également, Lamine Camara, le milieu sénégalais de Metz.
Ça fait bien, on a l'impression qu'on est en public. Peut-être un jour. Oumar Diakité, l'ivoirien de Reims, est nommé aussi dans cette liste.
Sous vos applaudissements.
Non.
Oh. Amin Gouiri, l'Algérien, l'attaquant algérien du Stade Rennais, est dans la liste.
Achraf Hakimi, le Marocain, défenseur bien sûr du Paris Saint-Germain.
On retrouve cette année encore Chancel Mbemba, le détenteur du prix Marc Vivien Foé, le défenseur congolais de l'Olympique de Marseille.
Alors moi, il m'épate.
Il épate aussi, parfois, Terem Mofi, le Nigérian attaquant de Nice.
Wow. On avait aperçu son talent l'année dernière, on le voit cette année, Youssouf Ndayishimiye, le milieu burundais de l'OGC Nice est dans la liste.
Il est nigérian, il est attaquant à Nantes, le club cher au cœur de Ludovic Duchesne, Moses Simon.
Dis-moi, c'est pas vrai!
Et le 11e dans cette liste des nommés pour le prix Fauet, c'est Wilfried Tsingo, le défenseur ivoirien de l'AS Monaco.
Merci messieurs, c'était très bien! C'était très bien!
Voici donc cette liste, ces 11 joueurs retenus par qui, Christophe Jousset? Qui, dites-nous, qui fait cette liste?
Plusieurs d'entre nous.
Ça me va comme réponse, on passe à la question suivante.
Non, on fait cette liste avec, en discussion concertée avec les membres du service des sports de RFI, avec la rédaction de France 24 également. On échange, on a des discussions serrées avec Ndiaye Samb et Farida Chache, que vous lisez chaque jour dans les pages sport du web. Discussion avec nos consultants également, anciens joueurs, consultants que vous retrouvez dans Radio Foot et dans Mondial Sport. Et puis, c'est toujours un processus long parce que il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont éligibles au prix Fauet. Et on rappelle quand même, Olivier, comment on peut accéder à ce titre d'éligible.
Oui, quels sont les critères?
D'abord, il faut avoir joué au moins une fois dans une équipe nationale africaine A. On peut avoir une double nationalité. Prenez Kimpembe, par exemple, qui a la nationalité aussi congolaise, mais qui joue en équipe de France. Il n'est évidemment pas éligible. Accor Adams aussi, qui a fait un très bon début de saison avec Montpellier. Il est nigérian, mais il a zéro sélection chez les A. Donc, voilà pour ce critère. Une sélection chez les A, au moins. Et il faut avoir joué aussi plus de la moitié des matchs de la saison. Cette saison, on a 34 journées, donc ça fait 17 plus 1. Il faut avoir 18 matchs au compteur. Et surtout, évidemment, il faut avoir été bon. Et il faut avoir pesé sur le parcours de son club. Ce qu'on évalue, c'est le meilleur joueur africain de Ligue 1 pour ses performances en Ligue 1. Et donc, au début, la discussion, elle est assez simple parce que chaque année, c'est pareil. Il y a toujours 4 ou 5 joueurs qui se détachent, les incontestables, ceux qui s'imposent. Et puis, plus on descend, plus la discussion est serrée parce que y être ou ne pas y être, ça tient à peu de choses. On essaye de respecter aussi un équilibre entre, on l'a vu dans la liste qui a été grainée, entre les attaquants, les milieux de terrain, les défenseurs, voire les gardiens de but. Bon, il n'y en a pas cette saison.
Dommage.
Vous en auriez vu un.
Mori Diaw, bien sûr.
Mori Diaw, il méritait pour vous d'être dans
le
11.
Oui, parce que dans une équipe en grande difficulté, il a plus d'une fois sauvé cette équipe de plus larges défaites, voire sauvé des points. Donc, j'aurais bien vu Mori Diaw, moi. Mais
un gardien récompensé depuis la création, hein, c'était
Vincent Enyamba.
Ouais, Enyamba, on s'en souvient, hein, qui était venu ici, dans le grand studio d'RFI, avec une traduction simultanée, et qui avait été un garçon et un prix Fauet fort sympathique. On avait fait une émission, il s'était bien amusé, je crois. Depuis, il a dû nous oublier.
Quel gardien.
Voilà pour les critères, Christophe. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, qu'allons-nous faire tous
on
ceux qui votent?
On ne va pas chanter du Gilbert Bécaud, par contre.
Alors, on va mettre cette liste, on va la soumettre à notre jury. Notre jury qui est, comme toujours, composé d'une centaine de journalistes de nos rédactions, mais aussi d'autres rédactions, d'autres médias. Il y a tout ce que ce studio compte de consultants.
Un sacré aéropage.
qui va se prononcer. Le principe est simple, hein, chacun fait son tiercé. Pour une première place, on gagne 5 points. Pour une deuxième place, on gagne 3 points. Pour une troisième place, on gagne 1 point. On fait les totaux. On aura jusqu'au 22 avril pour se prononcer, au lendemain de la 30e
Encore
journée.
Encore 3 semaines, donc.
Et puis, le nom du lauréat sera dévoilé lundi 13 mai, juste après l'avant-dernière journée de cette saison de Ligue 1.
A priori, dans la matinale de RFI, on verra pour l'horaire, on a encore le temps d'y penser, mais soyez présents à l'écoute de cette matinale.
Juste avant la liste de Didier Deschamps. Okay. Rien voilà, à voir, mais voilà.
Rien à voir. Rien à voir. Il n'a pas du tout suivi depuis le début.
Non.
Vraiment. On rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver toutes ces informations. Christophe l'a évoqué tout à l'heure, cette liste et plein d'autres informations sur les joueurs, sur RFI.fr. Un premier commentaire aux uns et aux autres. Ludovic, à vous l'honneur.
Belle liste, sincèrement. Moi, il m'en manque un. Alors, c'est pas mon côté nantais, mais je pense que pour moi, Mostafa Mohamed doit y être. Il fait une belle saison, il est dans une équipe qui est en grande difficulté, mais il a déjà égalé son nombre de buts de la saison. Il correspond aux critères énoncés par Christophe, et c'est un joueur qui est essentiel dans cette équipe de Nantes. Et bon, je vais pas dire essentiel dans l'équipe d'Égypte, mais qu'on a vu à la CAN, mais là, c'est pas le propos, c'est en Ligue 1, j'ai bien compris. Mais pour moi, il doit y être. Après, il y a un Kamori Doumbia aussi qui m'a époustouflé, qui a fait quelque chose d'assez incroyable sur un match.
A-t-il la moitié des matchs ?
Oui, il en a 19, donc okay. Ça doit faire la moitié.
Il a la moitié des matchs. Il a contre lui de ne pas être très présent en pourcentage en temps de jeu dans l'équipe sur l'ensemble de la saison.
Non, mais de toute façon, j'imagine que c'est subjectif aussi.
Bien
donc
sûr,
chacun,
bien sûr.
Il manque forcément des joueurs dans une liste de 11.
Il y a des sur ces 11 joueurs... Il y a des joueurs très intéressants, il y a des joueurs qui sont en pleine découverte, c'est-à-dire des joueurs qui s'expriment, qui n'ont pas du tout la même influence dans leur équipe que d'autres. Donc tout ça, c'est à discuter, c'est à évaluer. Voilà, moi, j'ai déjà mes 3-4 joueurs, donc je pense que... Voilà, mais pour certains, c'est très honorable qu'ils soient là, et tant mieux pour eux. Moi, je pense que le podium de l'an passé... Je pense qu'on ne les retrouvera pas. Les 3 qui étaient sur le podium l'an passé, je pense qu'on ne les retrouvera pas sur le podium cette année, mais c'est juste mon avis.
Bruno.
Ben, je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une star internationale dans la liste, si je ne me trompe pas, avec Aubameyang. Et c'est un nom, c'est un grand nom qui est de retour en Ligue 1 après quelques années à l'étranger où il a brillé, où il a joué dans les plus grands clubs, à Dortmund, à Arsenal, à Chelsea, au Barça. Donc je suis curieux de savoir si le jury va être pas influencé, mais un peu la tentation de... Si on prend le meilleur joueur, intrinsèquement, Aubameyang, il est au-dessus. C'est pour moi un des deux meilleurs joueurs dans cette liste, avec Nabil Bentaleb, qui pour moi fait la meilleure saison. Mais il est un niveau au-dessus.
11 buts, 5 passes décisives cette saison pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a eu deux années un peu compliquées. La dernière saison Arsenal, le passage au Barça la première année, bon, 11 buts quand même. Ensuite, ça a été plus dur. À Chelsea aussi.
C'était un naufrage,
malheureusement. Il renaît en quelque sorte, dans un championnat qui...
Et il y avait beaucoup d'incertitudes sur lui, savoir son retour en Ligue 1, savoir ce qu'il allait apporter à une équipe comme l'OM, en plus une équipe qui est en difficulté. Et si ça a été difficile au début pour lui, très vite il s'est mis en jambe et on a retrouvé l'attaquant véloce, rapide, décisif devant le but. Il y a ses buts en Ligue 1, mais il y a aussi ses buts en Coupe d'Europe. Même s'ils ne doivent pas peser, on les a un peu dans l'esprit malgré tout.
Justement, je trouve que c'est surtout via la Ligue Europa qu'il a imprimé sa
Ligue 1,
marque.
Ligue 1, 11 buts, 5 passes. Ligue 1, il est pas mal aussi.
Mais 11 buts, 5 passes pour Aubameyang, ce n'est pas des statistiques.
Non, mais pour un attaquant de l'OM qui est 7e.
T'as pas mieux dans la liste. T'as pas un mec qui a plus de stats.
Non, mais... je peux vous le dire, Terem Moffi, c'est 10 buts, 2 passes décisives. Et puis, du côté de Diakité, le Rémois, 5 buts. Amin Gouiri, qui marche très fort en ce moment, d'ailleurs, avec Rennes. On verra ce que ça donne demain en Coupe de France, en demi-finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Amin Gouiri, 5 buts, lui aussi.
Comme Simon. Oui. Les mêmes stats.
Mais... Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours voir l'attaquant comme le... Alors, c'est vrai que c'est souvent les attaquants qui gagnent, mais moi, pour moi, les meilleurs joueurs et les paris à faire sur cette liste, ce n'est pas des attaquants.
Ah non, c'est toujours la même histoire
avec les récompenses en foot.
Bruno,
on l'a dit pour le Ballon d'Or.
Bentaleb, qui est vraiment le maître à jouer d'une des équipes qui joue le mieux en Ligue 1, Lille. Donc, évidemment qu'il est pour moi un des favoris. Après, ce n'est pas un joueur connu, enfin, ce n'est pas un joueur frisson, mais c'est un joueur essentiel pour cette équipe. Et puis, moi, j'adore Wilfried Tsingo, qui est peut-être la meilleure recrue africaine de la saison et qui s'est très bien intégrée, là aussi, à une équipe qui est assez déséquilibrée vers l'avant, donc qui fait peser beaucoup de poids sur ses défenseurs. Et je trouve qu'il s'en sort très bien, en particulier dans les gros matchs. Et puis... Un joueur dont on voit l'importance quand il n'est pas là, c'est Youssouf Ndayishimiye à Nice. Depuis un mois et demi, il n'est plus là parce qu'il est blessé. Et je ne dis pas que c'est la cause principale du naufrage de l'OGC Nice, mais ça y contribue fortement. Donc, c'est pour moi, voilà des joueurs que distingue.
Lui, pour le coup, il a zéro stat. Et moi, ça me pose un vrai problème.
Pas un joueur de stat.
Mais non, mais à un moment donné, en Ligue 1, tu es obligé quand même d'avoir, même un milieu de terrain, il doit avoir des stats.
Il a marqué en Coupe de France.
Il a plus de cartons rouges que de passes décisives ou de buts. C'est quand même un vrai problème.
Mais c'est un faux débat pour
ça reste un bon joueur.
C'est un faux débat pour
moi. Tu dois être décisif dans le football d'aujourd'hui.
Non, les meilleurs joueurs sont. Est-ce que Modric est ultra décisif? Non.
Ah oui.
Pas forcément.
Bah
Il a pas beaucoup de buts et de passes décisives.
C'est
plutôt le joueur qui va faire le
décisif.
Mais pour moi, les stats, il faut essayer de sortir un peu des stats parce que le Ballon d'Or aujourd'hui, c'est plus que des stats.
Un minimum.
Et on oublie des joueurs comme Rodri, comme d'autres, comme Bernardo Silva. Pour moi, c'est le jeu. Je suis d'accord. Sur la première partie de saison, il était exceptionnel. Malheureusement, la deuxième, il est blessé. Donc, il a un peu décroché dans la liste.
On a vu l'année dernière que Chancel Mbemba, le tenant du titre, avait eu aussi des hauts et des bas tout au long de la saison. Il avait bien démarré. La fin avait été moins bonne et il avait été titré.
Et à ce sujet, comme Patrick le disait, il ne faut pas toujours récompenser les attaquants, ce que le jury avait fait l'année dernière, puisque Mbemba était le premier défenseur lauréat du prix Foé depuis
la création. Ça montre que c'est un jury de connaisseurs.
après moi, si on peut faire un petit jeu, si on prend tous les joueurs de ce 11, je vais demander à mes deux petits camarades, parce qu'ils ont fait ils nous ont dit un peu qui préféraient et qui mettaient en avant, et ils ont juste, pour moi, oublié celui qui, je pense, est devant les autres. Je veux juste faire un petit jeu avec vous. Vous prenez les joueurs à chaque poste et vous regardez s'ils font partie des 3-4 meilleurs joueurs du monde à leur poste. Vous regardez ça et vous regardez toute la liste. Je parle pas en Ligue 1, là, je parle au monde. Et après, vous regardez par exemple lequel
dans la
joue...
liste, dans la liste des meilleurs joueurs du monde à son poste.
Ouais. Et lequel joue dans le plus grand club français?
Si tu lui dis Hakimi, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord
lequel,
du tout.
Sur le PSG, je crois que Bruno, on n'est jamais d'accord, mais c'est pas grave. Parce que
au poste de latéral droit.
Ça peut pas être un handicap de jouer au Paris Saint-Germain. Je voudrais quand même juste le dire. Puisque c'est quand t'es titulaire au Paris Saint-Germain et que t'es indiscutable, je pense que forcément, dans cette liste, tu ne peux pas échapper au podium. Ouais, pour moi, c'est impensable. Et il fait une très bonne saison. Non, mais Bruno, faut être sérieux.
C'est un très bon joueur.
Très régulier,
on dit pas le contraire.
Et il fait une très bonne saison.
Mais après, il est très régulier. Mais est-ce que, Ludovic, tu peux me citer une action marquante d'Hakimi cette saison en Ligue 1?
Plein, tu rigoles.
Je t'écoute.
Tous les matchs, je sais pas. Ne serait-ce qu'à Marseille où il fait des grosses différences en début ou en fin.
Parce que c'est toujours lui qui fait
des différences sur son côté. Luis Enrique a cassé, j'aurais pas parlé du PSG, mais Luis Enrique a cassé ce qu'on avait de mieux, c'est-à-dire Hakimi, Dembélé, il a cassé ce truc qui était vraiment ce qui se faisait peut-être de mieux en Ligue 1, mais Hakimi est toujours ultra présent. Et alors vous avez la mémoire courte, parce qu'en début de saison, où le Paris Saint-Germain ramait et on voyait des prestations très très moyennes, le seul joueur qui s'en sortait, c'était Hakimi. Et donc, le classement-là, il tient compte aussi des trois premiers mois où il a été extrêmement brillant, comme souvent d'ailleurs. Il a eu un petit coup de moins bien parce que physiquement, c'est un joueur qui, l'un des joueurs, je pense, qui court le plus, techniquement. Mais jouer au Paris Saint-Germain, pardon, ça ne peut pas être un handicap. Parce que tous les autres joueurs, lequel des autres joueurs peut jouer au PSG aujourd'hui? Aucun.
Ça l'est forcément un handicap parce que quand tu joues au PSG, t'es beaucoup mieux entouré, beaucoup plus aidé. Donc même si t'es un peu moins bon, ça se voit moins parce que tu gagnes la plupart des matchs. Et Hakimi, on dit pas que c'est un mauvais joueur.
Mais tu joues au PSG quand même.
C'est un bon joueur. Moi, pour moi, c'est pas un des 3-4 meilleurs latéral droit au monde. Clairement, parce qu'il sait pas défendre.
Regarde les clubs.
Mais moi, je préfère un joueur comme Ben Taleb, qui fait mieux jouer les autres autour de lui, qui est dans une équipe qui joue, qui a des plus beaux footballs de Ligue 1.
Ben Taleb, c'est le dépositaire du jeu.
Il est parmi les meilleurs joueurs à son poste, clairement. En Ligue 1, c'est un des, pour moi, peut-être même le meilleur à son poste cette saison.
Et il fait une saison formidable avec Lille. Là-dessus, je te rejoins, parce qu'il est bien entouré aussi. Il y a Angel Gomez. Ils ont une équipe. Il y a Fonseca qui fait bien jouer son équipe. Ouais. Moi, je te rejoins sur Ben Taleb, mais ça n'a rien à voir avec Hakimi.
Un petit mot sur Wilfried Tsingo, parce qu'il est jeune, parce qu'on l'a vu, alors même si la CAN n'entre pas en ligne de compte, on sait bien que dans l'esprit de certains votants, ça va compter quand même un petit peu. Je me souviens, il y a de nombreuses années, Max-Alain Gradel qui ne comprenait pas, vainqueur de la CAN, pourquoi il n'avait pas pris ça. Il avait fallu lui expliquer que ça ne comptait pas. Tsingo, on l'entend, je l'ai entendu cet après-midi depuis que nous on connaît cette liste. Est-ce que ça pourrait être un jeune? Il semble partir de loin quand même, mais il fait une très belle saison. Mais
souvent, ce qu'on entendait à Monaco, c'est quand il n'était pas là, il manquait à son équipe. Et souvent, on reconnaît le talent d'un joueur quand il n'est pas là. Il y a un vrai manque. Il a apporté de la solidité, de l'équilibre défensif. Et pour moi, ça dit tout de ce joueur. C'est un jeune joueur qui va faire beaucoup
de
progrès.
Il est arrivé cet été. Et il s'est intégré dans une défense à trois, alors qu'au Torino, en Italie, il jouait plutôt en piston dans le couloir, en pur joueur de couloir. Là, il jouait sur le côté d'une défense à trois. Il l'a très bien fait. Et quand il a dû repasser latéral, lorsque Uther a changé un peu ses batteries tactiques, il s'est parfaitement coulé dans le nouveau schéma monégasque. Donc, je trouve qu'il a une grande capacité d'adaptation. Il a fait la canne. Il est revenu, j'allais pas dire frais comme un gardon, mais presque. Ça ne lui a pas du tout coupé les jambes, en fait. Contrairement à certains joueurs qui ont eu du mal parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué à la canne, comme Amin Harit, qui n'est pas dans la liste, peut-être pour ça, parce que depuis la canne, il est moins bon.
Ouais, Hakimi aussi a un retour de canne difficile. Ah,
voilà, Mofi, pareil. Bon, la liste peut être longue, mais... lui, je trouve qu'il est très régulier et sa saison est excellente.
Il est très bon dans les gros matchs. Il a clairement le potentiel pour aller taper un grand club européen. Il a vraiment un potentiel énorme et son nom commence à circuler notamment en Angleterre.
Il a des qualités de VO2 max, de vitesse, d'endurance pour l'Angleterre.
Il va plaire en Angleterre, je suis d'accord. Il a que 23 ans. Ouais. Et là, je partage votre avis. Je trouve que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Il fait beaucoup de bien à Monaco dans une défense où il y a eu beaucoup de blessés aussi.
C'est
ça
pas
a beaucoup
facile
tourné.
De jouer. Hein.
Il peut jouer aussi en tant que latéral dans une défense à 4, même si Heidi Hütter préfère les faire jouer à 3. Mais il est bon à tous les postes. Et franchement, non, c'est un joueur... moi, je ne sais pas, dans notre classement, il ne sera pas loin du podium.
Est-ce que Ndaï Chimier, Moses Simon, qui sont blessés, qui ne rejoueront peut-être pas cette saison, ça, c'est quand même un handicap, même si on se retourne, ils sont absents, ça les fait sortir du champ de vision.
Comme souvent, sur les trophées, on a tendance à oublier les premiers mois de la saison, puis on se souvient les trois derniers mois avant de voter. Mmh. Et forcément, ça a un impact énorme. C'est difficile de... Quand tu es absent... dans le sprint final, au moment important, les moments décisifs de la saison, c'est difficile de penser à toi.
Ouais, après, les deux dont on parle, bon, je pense qu'après, à part Patrick, quand même, qui va mettre Ndaï Chimier dans les trois. Sincèrement, je pense pas.
Moi, je regarde tous les matchs de tous les clubs et il est dans les trois.
Voilà. Et moi, Moses Simon, je vais être honnête jusqu'au bout. Et pourtant, on a beaucoup dit cette année que c'était le meilleur joueur de Nantes. Mais il a été, à mon sens, très peu décisif. On le voit de par ses statistiques. Et pardon de ramener ça au stat, mais quand on est attaquant, il faut être décisif. Donc, il l'a été très peu, même si c'est un dribbleur, un déstabilisateur.
Super spectaculaire, par contre.
Il est très spectaculaire, mais ces derniers temps avec Nantes, il s'est un peu perdu, avec ses camarades d'ailleurs. Mais voilà,
il
donc,
s'est perdu tout court, hein, d'ailleurs.
Ouais, là, il s'est blessé, malheureusement pour lui. Mais je pense que voilà, c'est bien pour lui, c'est une récompense qu'il soit là.
Bon, il l'a déjà été il y a 2 ans, hein, je crois, Moses Simon.
Moses Simon, oui. Je vais retrouver ça rapidement.
Il était top 5, me semble-t-il.
Je crois aussi.
Il était 7e il y a 2 ans, l'année où Seko Fofana s'impose. Oui.
Deux Algériens, deux Nigérians, deux Ivoiriens, c'est logique, c'est une belle liste. Un dernier mot sur cette liste, Christophe Jousset, quand vous l'avez égrené, forcément on a toujours des regrets, on aimerait pouvoir mettre deux remplaçants.
Voilà, il n'y a pas une liste, il n'y a pas une vérité évidemment, et tous les noms que j'ai entendus, ont fait l'objet de réflexions, d'hésitation, de changement, voilà. Ce qui est toujours très compliqué, il y a eu certaines années où on avait des attaquants, je pense à Nicolas Pépé, avec des stats tellement énormes que...
surclassait tout le monde.
Il n'y avait pas débat, quoi. Là,
Aubameyang, en 2013, on rappelle qu'il a été lauréat il y a 11 ans.
C'est le meilleur buteur africain de Ligue 1, mais on est, comme à chaque fois dans ce cas de figure d'un trophée individuel, devant l'obligation d'arbitrer entre des joueurs qui ne jouent pas au même poste et les mérites comparés d'un attaquant, d'un milieu de terrain, d'un défenseur, ça reste quelque chose de très compliqué à régler. Donc, casse-tête en vue pour tout le monde.
Un grand favori?
À part Hakimi, je sais pas.
Il n'y en a pas. Non, honnêtement, il n'y en a pas.
Aubameyang, quand même, peut-être.
Ouais, c'est vrai que c'est très ouvert cette année. Soyons honnêtes, c'est très, très ouvert.
C'est beaucoup plus ouvert que les deux ou trois précédentes saisons où on voyait très bien que... La saison passée, Mbemba avait vraiment marqué les esprits.
Il y a eu un duel serré avec Fofana quand même.
Celle d'avant, Seko Fofana et Kakuta semblaient vraiment au-dessus du lot. Ouais. Là, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, on peut deviner un peu que il y a un avantage pour les joueurs de gros clubs dans ce genre de scrutin, c'est que ce sont les matchs que les gens voient le plus. Ce sont aussi les matchs diffusés à des horaires les plus regardables, entre guillemets. Le match du dimanche à 15h, il est souvent moins vu que celui du dimanche à 21h. Hein. C'est pas
et puis
c'est un constat.
C'est plus facile d'être porté par les résultats d'une équipe qui a des résultats, qui est sur le podium comme l'OM les dernières avec Mbamba, que quelqu'un qui est 10e ou 9e.
Les gros clubs qui font de l'audimat sont souvent programmés à des horaires.
C'est vrai, mais.
Ils ont une bonne exposition. Donc je pense que Hakimi et Aubameyang ont un petit avantage à ce niveau-là, mais au-delà de leur performance et de leurs mérites respectifs.
Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Je veux juste rappeler que quand tu es dans une de ces équipes-là, c'est quand même que tu as le talent pour être. Tu n'es pas au Paris Saint-Germain par hasard, Bruno. Tu n'es pas à Manchester City par hasard.
À l'OM,
tu n'es pas à Liverpool par hasard.
Mais avec Longoria, tu peux être à l'OM par hasard.
Non, mais sauf qu'on n'élit pas le meilleur joueur. On élit le meilleur joueur de la saison.
De la saison.
C'est pas
pareil. Non, on est d'accord.
Et c'est pour ça que moi j'insiste sur les performances.
Absolument.
Et c'est pour ça que pour moi Ben Taleb il est au-dessus. Voilà.
Ah oui.
Vous avez mon vote comme ça.
On voit que l'ancien joueur de Tottenham vous avez depuis longtemps tapé dans l'œil.
Il m'avait beaucoup déçu. Il m'avait beaucoup déçu à Tottenham. Il n'avait pas réussi à s'imposer. Et là, clairement,
cas,
Lille, il est magnifique.
Je viens d'avoir un message de Nabil Djellit qui dit que le virement a bien fonctionné, voilà. Pour 500 euros. Il est vraiment content.
J'ai pas besoin de ça avec Nabil, il sait très bien.
Merci en tout cas, Christophe Jousset, de nous avoir donné cette liste en exclusivité. Bon, alors, en même temps, ça tombe bien, le prix est chez nous, alors autant l'avoir en premier.
C'est bien organisé.
C'est bien foutu. Puis personne, ça n'a pas fuité, c'est ça qui est bien. On vous laisse, chers auditeurs, évidemment, commenter tout ceci. On en reparlera sans doute dans les semaines qui viennent. On rappelle que la clôture des votes, c'est le 22 avril, si j'ai bien retenu.
C'est ça.
Et le nom du lauréat sera connu le 13 mai. Merci Christophe.
Merci à vous.
Merci.
On va parler de foot anglais maintenant.
Un duel pour les sommets, un duel pour la première place. On rappelle que Liverpool a battu Brighton. C'est Liverpool, le leader. Anthony Taylor blows his whistle in stalemate at the Etihad. Both Arsenal and City will have to make up the ground on Liverpool. L'impuissance de Manchester City cet après-midi, on en reste à ce score de 0-0.
Alors, revenons sur ce Manchester City-Arsenal. Vendredi, dans le Café des Sports, on en a beaucoup parlé. On avait été très élogieux et on avait, dans la foulée, qualifié le classique français Marseille-PSG de choc-ounet, de choc-en-toc. Est-ce que le choc-en-toc, ça n'était pas finalement dimanche après-midi entre ces deux monstres du foot anglais, City-Arsenal? Ça a paru long, très long. Je vous propose, avant de vous demander votre avis, on commencera bien sûr par Bruno Constant. On écoute le manager des Gunners, Mikel Arteta, fils spirituel de Maître Pep.
C'était un match compliqué mais passionnant face à un adversaire très exigeant. Je pense que nous avons été efficaces sur le plan défensif. Nous devions les mettre sous pression plus haut sur le terrain. Nous leur avons posé beaucoup de problèmes. Leur force, c'est d'arriver à vous mettre dans des blocs très bas et il est très difficile d'en sortir. Nous avons très bien su contenir les initiatives adverses et réussi à les empêcher d'exploiter les espaces, ce qui n'est pas simple à faire. C'est la première fois depuis 3 ans qu'ils ne marquent pas à domicile, ce qui montre bien à quel point City est un adversaire redoutable. L'aspect négatif, c'est que nous avons eu des occasions de marquer, mais que nous n'en avons pas profité. Par la suite, nous devrons avoir plus de sang-froid pour mieux utiliser le ballon et être plus performants en attaque.
Il est bien ce Mikel Arteta, hein, il vous dit tout en 40 secondes, c'est clair, c'est carré, il y a même des stats. Je suis trop dur, vous trouvez, Bruno Constant, quand je dis choc-en-toc ou quand je dis que ça a été très très long?
Ah oui, choc-en-toc, oui, c'est sévère, là. C'est sévère. Non, ouais, non, mais je peux comprendre qu'il y ait la déception parce que, notamment, on restait il y a 3 semaines avant sur un autre choc qui est pour moi le plus grand choc de la Première Ligue entre Liverpool et Manchester City. Et on s'était régalé, mais parce que c'était Jurgen Klopp et Pep Guardiola, quand ils s'affrontent, le jeu est beaucoup plus ouvert. C'est les deux entraîneurs, les deux équipes vont pour gagner le match. Et là, on s'est retrouvé avec deux entraîneurs qui se connaissent tellement bien par cœur, qui se sont inspirés l'un de l'autre. Au final, ils se sont neutralisés. Mais moi, personnellement, je fais partie des gens qui peuvent prendre du plaisir devant un 0-0, surtout quand il y a de l'intensité, qu'il y a un enjeu majeur. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a vu deux équipes qui ont tout fait, surtout pour ne pas perdre, parce qu'ils ne voulaient pas céder de points à un concurrent direct pour le titre. Mais on ne peut pas non plus passer sous silence la performance d'Arsenal qui a été énorme défensivement. Il le dit, Mikel Arteta, City, ça faisait 47 matchs consécutifs qui marquaient un but à domicile. Et réussir un match comme ça, priver autant City de tirs cadrés, notamment Erling Haaland, et ils l'ont fait déjà au match aller, où il n'y avait eu qu'un tir cadré pour City et 0 pour Haaland, c'est une performance monstrueuse défensivement, et ça, on est obligé de la souligner.
Ludovic.
Oui, je pense que sur ces deux équipes et sur ce match, Olivier, puisque tu en parles, il y a une des deux équipes qui a fait le match qu'elle voulait un peu près faire, j'ai l'impression. C'est Arsenal. Et je pense que...
Il y a une équipe qui a pris un point et une autre qui en a perdu deux, si je vous suis bien.
Quand même, ils avaient battu Liverpool il n'y a pas longtemps. Je pense que Arteta, moi j'avoue, fait humblement que je suis fan de ce gars, parce que je trouve qu'ils apprennent bien. Arsenal apprend. L'année dernière, ils avaient pris 4-1 contre Manchester City. Cette année, ils font 0-0. Ça veut dire que dans les grands matchs, ils sont là. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des différences. Saliba est toujours là. Ils se sont renforcés aussi. Il a compensé à certains postes. Est-ce que c'est pas... Alors, ça va être un peu notre débat, mais est-ce que c'est pas enfin l'année d'Arsenal, qui n'est plus champion, je crois, depuis 2004
Bruno. 20 ans.
Voilà. Donc, Arsenal apprend et Arteta apprend. Et c'est un gars qui fait jouer son équipe. Alors, c'est sûr que c'était pas un match, c'était pas très fun, mais ça veut dire aussi que ça... Et ça rappelle à tout le monde qu'il y a aussi des mauvais matchs dans le championnat anglais. Et oui, ça arrive, ceux qui regardent les matchs de première ligne, j'en ai commenté beaucoup, mais des fois on s'ennuie aussi, voilà, pour pas toujours critiquer le même championnat qu'on connaît par cœur qu'est la Ligue 1. Il y a aussi des mauvais matchs en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Donc là, c'était un grand choc, se sont beaucoup regardés et je pense qu'Arsenal a pris ce qu'il voulait prendre.
Arsenal n'a plus perdu en championnat depuis le 31 décembre, depuis un nul donc, celui de dimanche. Il restait sur 8 victoires et 33 buts marqués. C'est vrai qu'on a tendance, Patrick, à penser que la bonne opération, elle est pour Arsenal. Même si à l'arrivée, la bonne opération du week-end, on y reviendra, elle est pour Liverpool.
Voilà. Non mais en fait, on voit ça comme un match à deux pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire l'affrontement entre les deux coachs espagnols, le maître et l'élève et tout ça, mais c'est un match à trois en fait. Et c'est un match, il faut voir des choses de manière triangulaire, c'est de la triangulation, c'est-à-dire quand c'est les vases communicants, là les deux, finalement oui, c'est plus Arsenal qui a obtenu ce qu'il voulait plutôt que City, mais les deux sont perdants sur la journée. Je pense qu'il y a un petit truc en plus du côté de Liverpool.
Ah oui.
J'anticipe, mais le départ annoncé de Klopp.
Ah bah c'est exactement. Départ... Mais je voulais la garder pour tout à l'heure parce que quand on disait l'année peut-être d'Arsenal, moi je fais partie de ceux qui pensent comme vous, j'imagine, que le départ annoncé de Klopp peut donner un supplément d'âme à Liverpool et les amener à ce titre.
Et c'est évident, et surtout que c'est un club, Liverpool, c'est un club qui fonctionne beaucoup sur les symboles, sur les grandes dates, sur la mémoire. Et le fait d'anticiper déjà son départ, de penser à l'après, parce qu'on va penser à l'après, comment on va faire sans lui, je pense qu'ils vont tout donner à 250% pour lui amener un titre. Et peut-être même un doublé, parce qu'ils sont encore en course pour un doublé domestique, là, Liverpool.
Même humainement, comment fera-t-on sans lui? Je ne sais plus, c'était vendredi, le carton vert de Marc Libra était sur l'hommage à Sven-Göran Eriksson à Liverpool. Exceptionnel, magnifique. J'ai revu dans le week-end des images où on voit Klopp aller voir un monsieur handicapé, le prendre dans ses bras. On a une empathie, il déclenche ce type-là, une empathie qui est folle et qui va bien au-delà du jeu. On n'est pas là pour faire une déclaration d'amour à Klopp, mais... Quelque part, il gagnerait 2-3 trophées en fin de saison. Il en a déjà un dans la poche. Ça ne me déplairait pas.
Ce qu'on aime avec Liverpool, c'est parce que ça touche à l'émotion. En fait, le football de Klopp est fait d'émotion, Liverpool est fait d'émotion, et tout ce qu'ils font est lié à l'émotion.
Et il sait très bien.
Et ce qu'a réussi Klopp, c'est qu'il a la connexion avec le peuple de Liverpool, avec les gens, avec le côté social de ces gens-là. Ça a matché tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils le kiffent, qu'ils l'adorent et qu'ils vont le pleurer quand il va partir.
On va revenir sur Liverpool-Brighton et cette victoire 2-1, bien sûr. Juste, je voudrais rappeler, si ce match-là, Manchester City-Arsenal n'a pas peut-être tenu toutes ses promesses, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Notamment, moi, mon petit chouchou, je l'avoue, il s'appelle Bukayo Saka. Je ne suis pas le seul à bien l'aimer dans la rédaction, là, à côté. Je peux vous dire qu'un Cédric de Oliveira aussi, il aime beaucoup, et quelques autres. Ah ben, Mathieu de Gueldre en face, bip aussi. Il n'était pas là, Martinelli, me semble-t-il, était absent.
Bukayo Saka était là.
Il était là, finalement.
Saka était là.
C'est Martinelli qui manque.
Oui, c'est Martinelli, Gabriel Jesus. Ah, pardon. Évoqué vendredi le fait qu'il n'était pas là. J'étais passé. Il était là, mais il n'était forcément pas là à son prime, puisqu'il a été absent quelque temps.
Il y avait beaucoup d'absents à City. Il manquait Kyle Walker, Stones en défense. Il perd Nathan Ake aussi.
Je ne les ai pas cités, mais voilà, tous ces absents font que...
On a tendance à oublier, mais Guardiola a aligné une défense. Les quatre de derrière qui n'avaient jamais joué ensemble encore cette saison. Donc il y a aussi des ajustements qu'a dû faire Guardiola, qui a dû s'adapter. Il a sorti Foden, par exemple, à l'heure de jeu, qui était l'homme en forme, mais parce qu'il avait joué deux matchs avec l'Angleterre, il venait de perdre Nathan Ake, il s'est dit « je vais peut-être le perdre aussi sur blessure ». Donc il y a eu un peu du management.
Mais... Tout ça, ça a encouragé la prudence, en fait.
Ouais, forcément. Mais moi, je pense qu'Arsenal pourrait avoir un gros regret, parce que je pense qu'il y avait la place pour aller... En fait, moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que j'avais envie de voir Arsenal frapper un grand coup. Pour aller chercher le titre, pour moi, il fallait s'imposer à Manchester City.
À un moment, il faut faire ça. Ouais.
Parce que dans leur histoire, quand il y a eu les titres majeurs, je pense à celui de 1989, où ils vont gagner à la dernière journée à Anfield contre Liverpool, contre le concurrent pour le titre, ça se joue la dernière journée, ils vont gagner là-bas. En 98, ils vont gagner à Old Trafford avec un but d'Overmars à 5 ou 6 journées de la fin. Ils frappent les esprits, ils gagnent ce titre. Et je pense que pour gagner le titre, il faut remporter ces matchs-là. Et je pense qu'ils ont peut-être laissé échapper leur chance. Et forcément, pour moi, Liverpool, avec, on est à 9 journées de la fin, ils ont 2 et 3 points d'avance. Ils marchent sur l'eau, tous leurs matchs, ils se créent un nombre d'occasions invraisemblables. Pour moi, ils ont clairement le titre entre leurs mains.
Bon, Saka était donc bien là, pont sur le bec, mais c'est vrai qu'il était sans doute pas au top de sa forme.
Il n'était pas avec l'équipe d'Angleterre, voilà. Il était forfait avec l'équipe d'Angleterre.
Saison.
Et c'est vrai que vendredi, encore Arteta le donnait.
Il avait soupçonné qu'il n'était peut-être pas totalement blessé avec l'Angleterre. Donc, bon.
Mais juste une petite précision pour comparer à la Ligue 1, il reste plus de journées en Angleterre. On est encore dans un championnat.
Oui, mais on va revenir sur le calendrier.
Oui.
Juste, je voudrais qu'on donne un mot. Alors, on l'a dit pour Saka, Haaland était bien là et pourtant on a l'impression en ce moment qu'il n'est plus vraiment là.
Ah, il était là pour Roy Keane, en tout cas.
Il a joué tout le match.
Il l'a pas loupé, lui. C'est lui qui a mis le plus beau but du week-end.
Face
à des
défenses regroupées où les blocs sont très bas, il y a peu d'espace, il a un peu plus de mal. Moi, je trouve qu'il n'a pas un très bon jeu de tête par rapport à son gabarit. Après, on ne l'a pas toujours cherché dans les bonnes conditions non plus. Donc, c'est aussi City qui ne l'a peut-être pas mis dans les meilleures conditions. Et puis surtout, il a une occasion, une demi-occasion. Il essaie de la remettre à Ruben Dias dans l'axe. Il rate le ballon. Donc là, on peut s'en prendre qu'à lui, mais...
Il a été mauvais, on peut le dire.
Il n'a pas été présent suffisamment, c'est vrai.
Mais ici, ça ne fait pas de scandale si on dit qu'Haaland a été mauvais. Si on dit que Mbappé a été mauvais à Marseille, là, c'est... Je ne sais pas ce qui peut se passer.
Commencez pas à relancer le débat en antenne.
Il a joué tout le match.
Il a joué tout le match. Le programme, justement. Alors, plus de très, très gros chocs, mais une ou deux équipes qui peuvent arbitrer. Oui. Aston Villa va rencontrer tout le monde. Ouais. Demain, City sera à Villa. Ensuite, City, le programme, c'est...
Ah, ça sera City. Ils accueillent Aston Villa.
Ah, ils accueillent.
Oui,
ce sera à City. Le 14 avril, Arsenal accueillera Aston Villa.
Aussi, ouais.
Et
ouais.
Puis du côté de Liverpool, ce sera, tiens, quelle belle date, le 11 mai. Vraiment, je vous encourage à ne pas m'oublier ce jour-là. Liverpool ira à Aston Villa. C'est la seule équipe d'ailleurs qui va rencontrer les trois.
Et
Tottenham est là aussi.
C'est la seule qui a battu et Arsenal et City à domicile.
À Birmingham. Donc c'est
donc,
l'arbitre pour le titre avec peut-être
et
un
Tottenham.
Petit peu les Spurs. Oui,
et
tout à fait.
Tottenham,
c'est ce que j'allais dire. Tottenham, effectivement, qui est au programme de City, qui est au programme d'Arsenal le 28 avril et qui est au programme, effectivement, de Liverpool le 4 mai. Donc, ces deux équipes-là sont les seules, dans le haut du tableau, à pouvoir se embrouiller un peu la lutte pour le titre.
Quand on regarde les calendriers, je trouve que l'équipe qui a le calendrier, entre guillemets, évidemment, ça ne veut rien dire, mais le plus facile, c'est City. Et il ne faut pas oublier que entre Arsenal et Liverpool terminera par... Villa, Tottenham, Wolverhampton. Donc, c'est quand même trois derniers matchs qui seront assez énormes pour Liverpool, surtout s'ils s'approchent du titre avec tout ce qui se passe autour de Jurgen Klopp. Moi, je dis que ça peut jouer et ils ont, c'est vrai, eux aussi, un calendrier qui n'est pas évident.
Mais
moi,
attention, il y a des derbies dans tout ça. Il y en a deux pour Liverpool.
Oui, il y a
Arsenal-Tottenham. Ça, c'est un match toujours explosif.
Je vous demande de vous arrêter et d'écouter Jurgen Klopp.
Je vous demande.
J'ai beaucoup aimé le soutien d'Anfield face à Brighton. Le public était complètement impliqué dans la rencontre. C'était incroyable. Nous pouvons y arriver tous ensemble. Ce sera difficile, ce sera éprouvant pour les nerfs. Il est possible que la fréquence cardiaque monte à 180 ou 200, que vous soyez sur le terrain ou dans les tribunes. Mais si nous prenons du plaisir tous ensemble, nous pouvons y arriver. Si ça n'est pas le cas, nous pouvons le faire aussi, mais ce sera beaucoup plus difficile. C'est pourquoi nous devons rester positifs dans ces moments-là. Les joueurs nous ont mis dans une situation passionnante et on est proche du dénouement. Je n'ai pas regardé le total de points, ça nous en fait trois de plus et nous nous retrouvons avec deux équipes qui luttent pour le titre le plus prestigieux du foot anglais. On verra bien comment ça se terminera, mais quel que soit le résultat, je profiterai à fond de tous ces moments.
Ouais, on n'a aucun doute là-dessus. Depuis la défaite à Arsenal le 4 février, les Reds, c'est 8 victoires, 1 nul et une défaite, toute compétition confondue, 16 points pris sur 18 en championnat. Bon, tout va bien.
Et tout ça avec Konaté souvent absent, Alexander-Arnold absent, Robertson qui revenait de blessure.
Salah qui a été absent au mois de janvier et qui a été blessé. Qui arrive quand même à 15 buts.
Mossala, c'est la première titularisation, je crois, depuis la période défaite. Donc ça montre que Jurgen Klopp, au-delà de son effectif qui est assez large, notamment offensivement, il est capable de lancer des jeunes. Le petit Bradley latéral droit qui est fantastique, Kwanzaa qui joue axial, pareil, deux jeunes de l'académie et qui brillent. McAllister qui est magnifique au milieu de terrain, qui est en train de se
L'action, la Szoboszlai, McAllister et la petite passe
sublime pour Salah.
Pour Salah, c'est merveilleux.
Il arrive à faire jouer ses équipes comme personne et puis surtout, moi, je pense le retour de Salah en forme. Apte à 100% pour le sprint final. Il y a peu de joueurs comme ça. Il y en a quelques-uns en Première Ligue, hein, mais un joueur comme ça, franchement...
Non, mais on parle de supplément d'âme en raison du départ annoncé de Klopp. Mais Salah, il est en fin de contrat dans un an et trois mois, là, en juin 2025. Lui aussi, peut-être que c'est la dernière fois qu'on le voit sous le maillot de Liverpool. Hein. Donc lui aussi, envie de sortir en beauté. Non, mais on sait ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite.
Ils veulent prendre Liverpool et venir jouer en Ligue 1.
Non, mais on sait aussi qu'il y a des grands clubs qui peuvent vouloir ça là parce qu'ils doivent remplacer d'autres joueurs aussi. Bon, bref, ça peut bouger pour Mossala. Donc je pense que vraiment... Moi, Liverpool, je sens qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui peut les favoriser. Au-delà de tout ce qu'on a dit sur Arsenal et City.
8-9 journées encore à jouer, parce qu'elles n'ont pas toutes le même nombre de matchs. Enfin, celle-là, un favori pour le titre, Ludo.
Non, moi, le cœur, l'Arsenal.
Bruno.
Je ne sais pas, mais j'aimerais bien que ce soit Liverpool, pour Klopp.
Liverpool.
Allez, 3 contre 1, Liverpool, bing, c'est réglé. Duchesne, il n'y a plus de la
saison. Juste pour essayer.
Il y a Mathieu qui dit Arsenal.
Parce que Klopp, sur ses 8-9 ans à Liverpool, il mérite plus qu'un titre de Première Ligue. Il est arrivé deux
un
fois
titre
un
sous Covid.
Il a fait une saison fantastique.
Par raison, mais le mérite.
Oui, ouais, le mérite en foot, c'est sûr que c'est une notion relative. Ouais.
Allez, il y en a en Italie qui méritent d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. On va en parler tout de suite. Still going. Orsolini. Is there a better way to celebrate your 50th goal in Serie A than that? Bologna see off Salernitana and consolidate fourth spot in the Serie A standings. Full-time score here at the Dalara. Bologna 3. Après 30 journées sur 38, la messe est dite, ou presque, hein, dans ce calcio qui n'a plus grand intérêt. L'Inter a 14 points d'avance sur le Milan AC. Il sera titré, l'Inter. Le Milan AC sera donc deuxième vraisemblablement. La Juve et Bologne devraient se disputer le podium. La Juve est en pleine déconfiture. Je vous donne cette stat quand même de la Juventus de Turin. 2 défaites et 2 nuls sur les 4 derniers matchs. La dernière victoire, c'était le 26 février. En gros, sur les 10 derniers matchs, il n'y a qu'une victoire, 4 défaites et 4 nuls, vraiment, alors que Bologne, c'est tout à fait l'inverse. Et j'aimerais qu'on parle de Bologne. C'est vraiment l'invité surprise, je le disais, à la 4e place pour le moment, mais plus qu'à 2 points des Turinois. C'est 5 points devant la AS Roma, c'est 7 points devant l'Atalanta Bergame, c'est 11 points de plus que la Lazio. Et alors Naples, quand on parle de déconfiture, là, 45 points seulement, ils sont 8e, les Napolitains, tenant du titre. Je crois qu'ici, personne ne dira du mal de Thiago Motta, qui est cet entraîneur qu'on a tant aimé joueur au Paris Saint-Germain et avant. Il est l'homme de cette 4e place pour le moment. Bruno, je vous vois un peu trépigner.
Je pense que moi, j'ai adoré Thiago Motta, le joueur.
Ah oui, moi aussi.
J'étais curieux.
Et au micro des journalistes aussi.
Ouais, et j'étais curieux de savoir ce que pouvait devenir l'entraîneur. Et on s'aperçoit qu'il est un peu en train de devenir comme Guardiola, qui jouait à son poste en tant que joueur, qui est en train de devenir aussi le Xabi Alonso, ce que fait Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, qui joue aussi à ce poste de Thiago Motta. En fait, c'était déjà des entraîneurs quand ils étaient sur le terrain.
Voilà.
C'est-à-dire qu'ils voyaient le jeu avant les
comme
autres.
Didier Deschamps.
Et qu'ils étaient le relais.
Aussi, quand il, à ouais. ce poste-là, enfin, ouais, dans
Didier
le même
Deschamps,
de poste,
bien sûr.
Hein,
mais ils étaient le relais de leur entraîneur et un peu plus que le relais, parce que c'était les patrons sur le terrain. Et donc, du coup, moi, je me réjouis de voir sa réussite, même si je sais qu'il avait été moqué en Italie à ses débuts, notamment à la suite d'une interview où on en avait parlé il y a quelques mois, quand il avait décrit son système en 2-7-2, parce que lui intégrait le gardien à son jeu, en fait, à son équipe. C'était un libéraux et il participait complètement au jeu. Et aujourd'hui, on ne sourit plus, on rigole plus de Thiago Motta en Italie, parce que ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire.
une défaite, un nul, 8 victoires sur les 10 derniers matchs, hein, 24 points sur 27. Ouais, ça fait du bien de voir Bologne comme ça. C'est vraiment le vent fraîcheur.
C'est très sympa, Bologne. Le stade est très particulier. C'est un stade en bordure du quartier historique de Bologne. Un stade à l'ancienne, classé monument historique, avec des tours. Enfin, ça ressemble pas du tout au stade des Alpes ou aux autres stades italiens. Et le club a été souvent champion, mais il y a en des temps immémoriaux, dans les années 30, 50. Et quand on se balade en ville, il y a encore des...
C'était champion depuis 1964.
Ouais, hein, voilà. Ludo. Et une vieille photo en noir et blanc.
Deux coupes gagnées en 70 et
74. C'est Nantes.
Il n'y a plus rien de nous. Il n'y a rien de neuf. Et là, il est en train de donner un coup de fraîcheur, un coup de neuf à ce club. Et puis, il y a aussi un recrutement intelligent. C'est l'ancien directeur sportif de l'Atalanta qui maintenant est à la tête de Bologne, Sartori. Et ils font des recrutements intéressants, notamment Zirkzee, le néerlandais, qui là est en train de franchir un palier qu'on annonce déjà
dans des
top clubs italiens.
Aucune star. Quand vous regardez la liste, j'ai cherché. Alors, par exemple, les buteurs ce week-end face à la Salernitana, Riccardo Orsolini, Alexis Salmakers, le belge, et Karis Likodianis, je crois, on dit. Voilà, je cherche aussi les Africains, bien sûr. Il y a un international marocain, 3 sélections quand même pour Oussama El Azouzi. Et puis, il y a un très jeune Nigérian qui n'a pas beaucoup joué, mais qui est en moins de 23 avec le Nigeria, Okwonkwo.
Il y a un international écossais, Alexis Ferguson. Ouais. Il est arrivé en provenance d'Aberdeen. Lewis Ferguson. Il a coûté 2 millions d'euros.
Milieu offensif, très bon joueur.
Franchement, intéressant, ouais. c'est une trouvaille parce que honnêtement, il ne brillait pas plus que ça. Et c'est surtout ça, la force de cet entraîneur, c'est qu'il fait progresser ses joueurs, il les fait grandir. Et c'est ça pour moi la qualité d'un grand entraîneur.
Avec peu de moyens.
Ce que j'aime bien déjà, parce qu'on connaît, le joueur était tellement intelligent. Ouais. D'ailleurs, je pense que le PSG n'a jamais remplacé Thiago Motta depuis qu'il est parti. C'était on prend d'ailleurs souvent en exemple le PSG de Laurent Blanc, mais ce milieu de terrain avec Thiago Motta et aussi Matuidi, attention, c'était un sacré niveau. Mais c'est vrai que c'était un joueur d'une telle intelligence que c'est pas possible que, d'ailleurs, Bruno l'a dit, il avait déjà ça en lui, et que c'est des joueurs qui sont déjà pratiquement entraîneurs quand ils sont joueurs. Et ce qu'il met en place avec le Genoa, c'est exceptionnel. Il est en train de ressusciter un club qui a été 7 fois champion d'Italie, mais ça remonte à 64.
Bologne, vous disiez le...
Avec Bologne, ouais. J'ai dit quoi?
Genoa, ah, pardon. C'est là qu'il a commencé.
Ouais, voilà, ouais. Ça s'est mal passé d'ailleurs. Mais avec Bologne, et c'est vrai que cette année, quand on regarde les championnats, Gérone en Espagne, Brest en France, voilà, c'est des équipes qu'on n'attendait pas et qui vont sans doute jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais lui, ce qui me plaît, c'est le jeu qu'il a mis en place, quoi. C'est toujours cette possession du ballon. Il y a des choses très intelligentes qui sont mises en place. Et c'est vrai que ce pressing, ni trop haut, ni trop vite, mais il y a beaucoup de choses et il n'y a pas de star, tu l'as dit. Bon, il y a Orsolini qui a quand même été international italien. Mais, et puis ce joueur-là dont a parlé Zirkzee, là, qu'on compare déjà à Bergkamp. Donc, il y a énormément de talent, mais lui, alors, je ne suis pas sûr qu'il restera longtemps du coup à Bologne.
Non, il est déjà annoncé.
C'est quand même le point commun de Girona, de Brest, du Bayer Leverkusen, de Bologne, c'est qu'il n'y a pas de star. Et ça fait du bien d'avoir des équipes de foot où on parle de jeu, où on parle d'entraîneurs qui mettent un jeu en place, où il y a un collectif. Et on arrête de parler d'Mbappé, de Haaland, de Mossala, de toutes ces stars qui vampirisent un petit peu les débats. Alors que là, on parle de vrai football, quoi. C'est
bon, après,
ça qui est intéressant.
Leverkusen, c'est un peu au-dessus.
Il y a quelques joueurs aussi.
Ce serait plus comparable à Stuttgart.
Ils arrivent de nulle part.
Oui, ce que fait Bologne.
Ils arrivent de
nulle part. Leverkusen, c'est quand même un club habitué à jouer la Ligue des Champions. Enfin, c'est un top 3, top 4 allemand. C'est plus Stuttgart, le club surprise.
Non, mais ils y arrivent de nulle part, les Leverkusen. Personne ne les a vu venir.
Mais surtout, le niveau.
Oui, ce sera un très très beau
niveau de fou.
Champion, on parlera un de ces quatre, c'est promis, du football allemand. Il faudra, bien sûr. On reparle de foot, évidemment, demain, mercredi. On parlera de Liga. Tiens, on va prévenir les auditeurs. On parlera de Liga, on parlera de Coupe de France avec Lyon, Valenciennes ce soir. Notamment, on parlera même de MLS. Patientez jusqu'à demain. Mathieu de Gueldre aussi. David Finzel aussi, Pierre-Olivier Guérin aussi.